Vous entrez dans les ateliers de la nuit.
Pour moi, il y a eu une première expérience qui a été de fusion, je ne sais pas comment dire, avec les éléments en particulier naturels, avec la végétation, la forêt, comme si j'avais été accueillie par ces esprits des plantes. En tout cas, l'ayahuasca peut confronter à des choses assez difficiles, elle nous met face à nos limites physiques et psychiques. Pour moi, il y a eu certains moments assez difficiles, mais qui m'ont quand même donné envie d'aller plus loin et de questionner ce qu'est voir, ce que signifie voir.
Voir, c'est une quête du voir, voir plus et plus loin. Les explorateurs, les vrais, souvent ne s'en tiennent pas à la géographie, à la terre et ses tracés. Le monde peut très vite devenir étroit. On peut se sentir claustrophobe. Avoir besoin de voir plus loin et donc de voyager en soi. Trouver de nouvelles portes d'entrée ou de sortie. Élargir le temps et l'espace. L'expérience littéraire peut offrir ça, l'écriture. Mais on peut encore avoir envie de creuser, d'aller au-delà, provoquer de nouvelles visions. Gabriella Conti, d'une mère française, d'un père argentin, est un des écrivains majeurs du début du XXIe siècle, disparu trop tôt en 2010. Elle était une vraie exploratrice. Elle a fait partie de l'expédition 2048 en Antarctique. Elle devint la première femme argentine à atteindre le pôle sud. Elle disparaît dans une tempête de neige et ne laisse aucune trace. Il nous reste aujourd'hui ses écrits, son histoire, ses sons. Ce sera ce soir un chapitre très précis de sa vie. Elle rend visite en 2008 à l'auteur Guillaume Sauvage, qui, lui, habite depuis plusieurs mois au Pérou. Les deux écrivains vont descendre la forêt amazonienne pour y vivre une cérémonie de l'ayahuasca. Un breuvage chamanique qui rend les pensées plus présentes, provoque des hallucinations intenses et une expérience de mort imminente. Elle fait voir autrement et plus qu'à l'habitude. C'est donc une expérience et visuelle et sonore. Apprêtez-vous à voyager en vous et à aller plus loin que vous ne l'avez jamais été. Ayahuasca, par Agathe Simon et Angélique Thibault.
Je ne dors pas. Il est 3h30. Ce chien me rend fou. Demain, je l'empoisonne. Je ne dors toujours pas. Je suis au milieu de ma vie comme en plein océan, sur un radeau instable. Octobre. Je n'arrive pas à écrire. J'ai encore des acouphènes. Impossible de réfléchir. Je reste dans le hamac au bord du rio. 24 octobre. J'essaie d'avancer dans mon roman. Tous les matins, je m'assieds à mon bureau. Quoi qu'il arrive. Mais pour l'instant, rien ne vient.
Ça y est, ça recommence. Tous les jours, quoi. Victor ! Victor ! Baja la musica, por favor ! Victor, baja la musica, merde !
On se suicide, mais Septimus est un personnage qui, avant de se suicider, entrevoit...
14h. ...que seuls les poètes sont capables d'entrevoir... Je me suis exilé pour trouver du répit, mais je me débats contre des ombres. C'est une sorte de deuil qui ne se fait pas. Je suis obsédé par ce manuscrit et par Sylvie. Le dimanche, on vient fleurir la tombe. Ce matin, j'ai relu mon roman inachevé, mais je ne me reconnais pas. Je me sens déformé, défiguré par quelque chose d'inconnu.
Voilà un enterrement.
Les gens sont rangés en noir.
J'y ai consacré des années et je n'en retire que du doute.
Ils ont les mains l'une sur l'autre devant le pubis.
En mai, Claudine m'a dit « Ta haine n'a pas trouvé son style. » Depuis, je suis bloqué.
Avec des cordes,
j'ai tout misé sur l'écriture, mais je me demande si j'ai réellement une œuvre. Contresens n'est pas réédité, et la publication de Memento me laisse mal à l'aise.
La pluie leur donne un air
sans que je sache pourquoi. Seize heures. La journée passe. Sans réalité ni satisfaction. Dix-huit heures trente. La nuit tombe, il faut que je trouve un second souffle. J'ai tout abandonné derrière moi. C'est pour me trouver, pas pour me perdre. Je pense à Sylvie. Ça se résume à un mot qui sans cesse revient, Sylvie. Depuis la rupture, j'ai tout essayé pour l'oublier. Le sexe, l'écriture, la drogue, la cèse. Maintenant, je n'ai plus qu'une solution, l'ayahuasca. Ce matin, Victor m'a promis qu'Amaru passerait bientôt. 26 octobre, marché de Pissac. Je me sens seul. Les gens ici sont absurdes. Ils comprennent rien. J'achète des bricoles, je traîne, tout me semble vain. Heureusement, Gabriela arrive dans 4 jours. Je me souviens, au dîner de Claudine, elle était venue avec un étudiant qui avait l'air fou d'elle. Elle avait enlevé son manteau dans l'entrée. Sous son manteau, elle portait une robe rouge. « 11h30. Je bois un pisco sour sur la place principale. Paris me manque, mais quand j'y suis, Paris m'insupporte. C'est insoluble. Quand j'étais gamin, j'aimais bien le son des cloches. Celle de Notre-Dame-des-Champs. Les dimanches matins, mon père m'emmenait au marché. Il me prenait dans ses bras en riant. 27 octobre. Encore une journée dans mon hamac. Je relis le seul livre que j'ai ici. Progéniture de Guyota. Ma thèse sur Guyota, je sens que je la finirai jamais.
Tiens, là tu vois, Rahba. Ça, c'est de l'arabe algérien.
Karba.
Ça veut dire putain.
Mais l'arabe algérien, c'est seulement un dialecte d'Alger ou c'est utilisé partout en Algérie?
Non, c'est uniquement en Algérie.
Comme par exemple à Constantine, on ne comprendrait pas où est l'Amsen.
Ah, ici, tu vois, Loubia, ça, c'est de l'arabe algérien, encore, ça veut dire haricot. C'est un bordel, ce truc de Guyota.
En fait, il n'y a pas vraiment de dialecte kabyle dans Progéniture.
Jusque-là, j'en ai pas vu.
Il y a une chose que je voulais te demander dans Éden. Voilà, dans ce passage-là, tu sais, il y a deux personnages qui s'appellent Khamsi et Khemissa.
Écoute, je pense que ça.
Ma thèse, c'était vraiment une belle époque.
Khamsi, ça vient sans doute du.
Surtout quand Samir m'aidait à comprendre Éden ou Progéniture. La langue de Guyota, c'est un labyrinthe dans lequel on se rencontrait.
Il est très riche ce passage. Rachirin Rejal Kulium.
Qu'est-ce que ça veut dire ça?
20 mecs tous les jours.
20 mecs tous
très
les jours.
Très explicite.
Ah, c'est assez explicite.
C'est le passage du bordel.
Au mois d'août, j'avais suivi Samir dans des soirées anarcho-queer. C'était dans des squats, à Montreuil.
Alors Guillaume, c'est la fête ce soir!
Ah, non, on reste pas dans le coup, Samir!
Ah, ça va!
Ah, t'es complètement défoncé, t'as pris
ouais,
quoi?
Je suis complètement défoncé!
Ah, c'est ça, ouais!
Je suis là, c'est pas ramené, et planqué! Putain, je suis dégoûté! En bas, il y a une armada de punk à chat qui peuvent te vendre ce que tu veux! Tu devrais essayer plein de trucs ce
okay.
soir!
Ben,
allez, tiens! Là, on descend! Alors, t'en es où?
Alors,
ça
salam,
va, monsieur, t'as pris?
Salam, Halik! Que père, chérie, que Itawa, ça presse, comme ça?
Non, c'est. Salam, Halik! Et que t'as Attends, je vais t'en apprendre deux.
C'est là que tout avait commencé. Les nuits sans fin, la découverte d'une forme d'inconnu que j'avais jusque-là méprisée.
Ça veut dire quoi ça?
Ah, celle-là aussi, elle tue. Talhastizi.
J'avais 20 ans de plus que lui et il m'initiait.
C'est du Guyota, la mode arabe syrienne. Ça veut dire lèche.
Ah, ouais, d'accord, ok, Talhastizi, ok, joyeux.
Je n'avais aimé que des femmes et il m'attirait. Je lui faisais découvrir Bataille et Guyota. Il me faisait découvrir la nuit.
Regarde le mec là-bas.
Où ça?
En bleu. À côté du pylône.
Ça se voit pas.
À côté du pylône. À côté.
Ouais. Et alors?
crois que t'as un ticket avec lui.
Mais moi ça m'intéresse pas, je te dis Samir.
Tu rates quelque chose, vas-y.
Mais putain, je te dis que c'est pas mon truc.
Dommage pour toi.
Ouais.
Derrière un rideau de gaz noir, il y avait des chaises, des canapés. Des gens baisaient sur des matelas défoncés. Samir les avait rejoints. Je le regardais au milieu des autres. Je me sentais bien. Je me sentais libre. Ensuite, le mélange avait commencé à monter. J'avais abordé une femme en robe de velours noir. Quelques mois plus tard, en février, j'avais tenté d'embrasser Samir. Il m'avait repoussé. Il avait dit « Pas mourir !»
28 octobre. Quand on est seul, le passé devient envahissant. Heureusement, Gabriella arrive dans 2 jours. J'attends l'inspiration dans mon hamac. Mais l'inspiration ne vient pas. Ce qui me vient, c'est Sylvie. Je n'arrive pas à l'oublier. Le plus dur, ce n'est pas d'oublier la rupture ou la souffrance. C'est d'oublier la jouissance. Sa manière de me conduire au-delà du plaisir, par tous les moyens. Sa manière de me tenir de l'intérieur, comme si elle savait mieux que moi qui j'étais. Sa manière de me faire dépasser mes limites par le désir, la jalousie, la douleur. Je pense à elle. Mais cette pensée obsédante fait peut-être écran. Derrière, je pressens qu'il y a autre chose. J'aimerais que l'ayahuasca m'aide à comprendre ou me fasse tout oublier.
Les infos, Stéphane Leneuf.
Bonsoir.
Seul, je ne ressemble à rien.
Prévoit une enveloppe de 185 milliards d'euros pour l'armée française d'ici 2015.
Si je suis honnête avec moi-même, je dois bien avouer que mon père me manque. Il me manque comme au premier jour, le jour de sa mort.
54 000 postes seront supprimés d'ici 2015. Face aux critiques sur l'opacité de ces tarifs, la direction de la S6...
Plus je passe du temps dans ce hamac, plus je suis crevé.
Découvert en bordure de route à Dordiv.
Le 29 octobre. Ce matin, j'ai demandé à Eduardo comment c'était, l'ayahuasca. Il en a pris une fois il y a 30 ans. Il ne voulait pas répondre. Puis il a baissé les yeux et a dit « Fuerte ». Et il s'est tu. Je n'ai rien demandé de plus. Sinon, je n'aurais jamais le courage de descendre dans la forêt. Eduardo part demain pour Lima. Il m'a laissé les clés de sa maison. Oh. 16h30. Journée dans le hamac. À ne rien faire. Au moins, je vis de manière radicale. Sans compromis. Je ne suis pas un de ces esclaves qui courent dans les rues de Paris, à qui on dit que vivre et comment.
Hola, el señor salvaje, c'est Gabriela. J'espère que tu vas bien. Voilà, je suis à Lima, en fait. J'ai un peu de retard à cause de Felipe. Je vais essayer de... je vais essayer de prendre un collectivo à 15h30, mais en gros, voilà, j'arrive quand j'arrive. Sinon, mais j'espère que c'est toujours OK pour l'ayahuasca. Voilà. Ciao, ciao, et te mando un abrazo. Hasta pronto.
Putain, c'est quoi cette histoire? On avait dit le 30 octobre.
Ah, putain, j'espère qu'elle va pas le ramener ici.
Que has marcado no existe.
Merde, en plus, elle est injoignable.
Ah, les effectifs pleins. Tueur, payeur, gorgier sous table, paye.
1h30.
Son nez de
je ne dors pas. J'écoute sa voix.
Son aîné rend bondir. Reste reconnu.
J'écoute son texte.
Quel outil sa promotion fraîche lui tranchait le cœur.
Guyota a réussi quelque chose de monstrueux.
Un être
à côté de lui, j'ai l'impression d'être une ombre.
Ta jambe, mon petit doigt plus gros. Les rabarcés autodis, ma chérie.
31 octobre. Je ne supporte pas la vie quotidienne. J'aimerais, comme les autres, pouvoir prendre plaisir à n'importe quoi ou accepter d'être un esclave. Mais je n'y arrive pas. Au fond, ce qu'il faudrait, c'est mettre un terme à tout ça. 1er novembre. Aucune nouvelle de Gabriella.
Je t'assure, Gabriella, j'ai pris... Mais écoute, je te dis que j'ai pris... Quoi ? Tu me crois pas ?
Si, je te crois. Mais t'es malade ! De la kétamine, plus de l'AMD, plus de la mescaline.
Je la désirais.
Quoi ?
Je ne pensais qu'à ça.
Ah oui, tu me crois pas.
Le cocktail, t'imagines ? Mais si, je te crois, je te crois.
Écoute, t'as l'air en pleine forme. Bon, tu sais, moi, je suis vachement content de te voir.
Ouais, moi aussi. Mais dis-moi, alors, l'ayahuasca, concrètement ?
Non, je te dis, j'ai essayé beaucoup de choses, mais pas l'ayahuasca. Et ça, j'ai envie de connaître. Mais cela dit, bon, le truc qu'on te raconte, qu'on vomit partout, que moi, j'y crois pas trop. Tu sais, les hallucinations, je connais. Hein, j'ai vraiment, vraiment vécu beaucoup de choses.
Attends, l'ayahuasca, Guillaume, c'est pas une drogue. C'est une cérémonie chamanique. Il y a quelque chose de sacré dans l'ayahuasca.
Moi, ce qui m'intéresse surtout, tu vois, c'est la DMT.
C'est pour ça que je suis là.
Oui, oui, d'accord, mais... Ça t'emmène très très loin. Moi, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie d'essayer. C'est un peu... Ça t'emmène très loin. C'est comme une naissance ou une mort.
Dis donc, ce chaman-là, tu le connais comment ?
C'est un cousin de Victor, mon voisin. Il s'appelle Amaru.
Oui. Et c'est quelqu'un de confiance, tu crois ?
Bah, je pense, ouais. Ouais, c'est un grand chaman. Enfin, moi, je le connais pas directement, mais on m'a dit que c'était un grand chaman. C'est son grand-père qui lui a tout appris dans la forêt. T'es fatigué, non ? T'as l'air fatigué. Après 2 jours de bus, je comprendrais que tu sois fatigué.
Non, ça va, j'ai l'habitude. J'ai juste eu un petit peu de mal à trouver l'endroit, mais en fait, personne ne te connaît ici. Moi, j'ai demandé le Seigneur Guillaume Sauvage.
Voilà. Faut pas le dire comme ça, le Seigneur Guillaume Sauvage.
Non, en tout cas, c'est très beau chez toi. Le jardin est magnifique.
Ouais.
Mmh, ouais.
Bon, je...
Bon, ben, bonne nuit.
Tu sais que je t'ai préparé une chambre.
Je te remercie.
Tu sais, ici, on est à 3000 mètres d'altitude, alors ouais. Si tu as froid la nuit, tu...
La chambre, ce sera très bien. Ciao, Guillaume. Bonne nuit.
3 novembre. J'ai longtemps attendu son réveil. À 13 heures, elle a fini par apparaître. Elle portait une robe bleue. Elle s'est assise dans le jardin.
Ça va, bien dormi ?
Muy bien, gracias.
J'allais me mettre à table. Tu as faim ?
Oh, c'est chouette. J'adore les alfajores.
Ah ben, sers-toi.
Claudine te passe le bonjour, au fait.
Ah, c'est gentil. Depuis quand tu la connais, déjà ?
Ça doit faire 6-7 ans. J'aime bien cette nana. Je trouve que c'est une bonne éditrice. Et toi, t'écris sur quoi en ce moment ?
Là, je suis plutôt dans une phase de réflexion. Je me dis que je vais peut-être écrire un texte sur mon père.
Ouais, ton père, tu m'en avais parlé. Au dîner de Claudine.
En fait, c'est vieux, j'étais tout gamin, ça... Enfin, c'est comme ça, je vais pas t'embêter avec ça, de toute façon, il n'y a pas grand-chose.
Non, mais tu m'embêtes pas, je comprends. Tu sais, moi, j'ai perdu ma mère aussi quand j'étais petite, donc...
Un mot ? Mais elle avait quel... Enfin, tu avais quel âge ?
J'avais 3 ans, à peine. C'était sous la dictature argentine.
Ta mère est argentine ?
Non, non, non. Ma mère était française, mon père est argentin.
Mais t'écris sur elle ?
Bah, en fait, non. Mais plutôt sur les lieux. L'immeuble qu'elle habitait à Paris, la maison de Palermo Viejo... Et puis là, la ESMA.
La ESMA, c'est quoi ?
La ESMA, c'est là où on torturait. C'est là où ma mère a accouché de ma sœur Cécilia. Et ensuite, Cécilia a été volée par les proches de la dictature. Et bah, aujourd'hui, on ne sait pas si on la retrouvera.
Mais elle est à Buenos Aires, non ?
Je sais pas. Peut-être. Sans doute, même. Mais en fait, ma grand-mère, ça fait des années qu'elle la cherche. Mais c'est un petit peu comme ça dans la vie, tu sais. Ça peut être la voisine qu'elle croise tous les jours sur le palier. On ne sait pas. Tiens. Écoute ça. Attends, je mets un peu plus loin parce que le début c'est chiant. C'est ce qu'on écoutait à Buenos Aires à cette époque. Ma mère adorait cette chanson.
Gabriella est partie seule à Pissac. En son absence, j'ai lu son manuscrit. Elle l'avait laissé sur son bureau. Je ne sais pas si c'était son journal ou son roman. J'ai trouvé ça un peu trop littéraire. Mais très bien écrit. Le ton, le style, tout. Et puis cette présence qui ne s'invente pas. C'était presque agaçant. Il y a une phrase qui m'a marqué. « En moi brûle la flamme sauvage de la liberté. » À Paris, pendant le dîner chez Claudine, j'avais eu l'impression à la regarder qu'elle était facile à séduire. Ou plutôt qu'elle aimait séduire. Je me souviens de ses regards pour le jeune homme qui l'accompagnait. Et surtout pour un autre homme, un type de Nouakchott, timide, qui la regardait lui aussi. Je pensais inviter chez moi une femme qui serait vite ma maîtresse, et je me retrouve face à Gabriela Conti, un écrivain accompli qui refuse de coucher avec moi. Vers 14h, je suis allé à Pissac. J'ai vu Gabriela de loin, en terrasse, sur la place principale, avec un type qui s'est esquivé à mon approche. Elle m'a fait signe. J'ai commandé un pisco sour. Et puis je ne sais pas pourquoi, j'ai eu besoin de me vanter. Comme je n'avais rien à dire, je me suis inventé des maîtresses à Cusco. C'était très agréable. Je parlais de ces femmes imaginaires à Gabriela. Je la regardais. Et je me disais, elle te fait oublier Sylvie.
Gabriela!
Le soir, j'avais tenté quelque chose. Mais la porte de sa chambre était fermée à clé. J'avais insisté.
Gabriela!
Buenas noches!
Ça ressemblait à un refus, mais on sait jamais avec les femmes. Mercredi 5 novembre.
Si, querido. Nah, en serio, che.
J'ai donné quelques pages de mon roman à Gabriela. J'espérais que son jugement pourrait contrebalancer la critique de Claudine. Mais Gabriela a passé des heures au téléphone. Ensuite, elle s'est couchée dans le hamac. À 16h, elle s'est levée et elle est partie pour Pissac. Sans commentaire. Le soir, j'ai tenté une seconde approche. Échec complet. C'est irritant de se faire repousser par une femme aussi libre. 17h. Victor nous a présenté son cousin Amaru. Amaru a 32 ans. Il vit dans la forêt. Il est chaman. Il était torse nu, assis dans le jardin. Il ne parlait presque pas. Amaru a combattu le sentier lumineux quand il avait 20 ans. Il arrivait dans des villages en feu, au milieu de viols, de tortures, de meurtres. C'est grâce à l'ayahuasca qu'il a survécu à l'horreur. Il nous a dit jusqu'à la cérémonie éviter la viande, les excitants, les épices et le sexe. Dans une semaine, on descend avec lui dans la forêt. Novembre, Gabriela est partie. Je l'ai envoyée chez Eduardo, sur l'autre rive du Rio. Elle va garder sa maison en son absence. Je me prépare pour la cérémonie. C'est simple, il faut ne rien faire. Je fais donc comme d'habitude, mais sans avoir mauvaise conscience. 8 novembre. L'inaction est pénible. La solitude est pénible. Vivre est décidément pénible. 10 novembre. J'ai faim, je bande, je m'ennuie. Voilà à quoi ressemble ma journée. 13 novembre. Le départ est pour demain. Je n'ai aucune envie de descendre dans la forêt. Vendredi 14. J'ai laissé mes clés à Victor. Il m'a regardé partir avec admiration. Dans la vallée sacrée, tout le monde redoute mère ayahuasca. Le bus atteint enfin le col Tres Cruces. Soudain, en bas, je vois l'immense vallée Cosnipata, pleine d'arbres et de brumes. En quelques virages, je me sens brutalement passé de la Sierra désertique aux bouffées humides de l'Amazonie. Dans les secousses de la descente, je frôlais la cuisse de Gabriella. Je me demandais si elle dormait vraiment. Peu avant d'atteindre le rio, elle s'est tournée vers moi et m'a dit
« Tu camino es tu sueño. »
Elle avait l'air triste. « Ton chemin est ton rêve. » Je n'ai pas compris. Village de Cacambo. Étape pour la nuit. On est au bord du Rio Alto Madre de Dios. On a fêté l'anniversaire de Gabriella, mais brièvement, car le village est peu accueillant, même si Amaru y passe souvent. Samedi, de nouveau la pirogue à moteur. On tourne à droite sur le Rio Madre de Dios, direction Puerto Maldonado. On voit près de la rive des singes, des tortues, des martins pêcheurs. Gabriella a l'air préoccupée. 18h, impression pénible croissante. La pirogue est trop chargée. Les bords sont à ras l'eau boueuse. On est maintenant dans la province de Tambopata. On dépasse la commune de Laberinto. Ça grouille de gens. Tout est pauvre. Les baraques, les habits, les pirogues à moitié trouées. Nous sommes enfin arrivés. Pilpintu, c'est un village d'orpailleurs. Mais je n'ai vu personne. Amaru nous a isolés. Chacun dans une hutte à la lisière du village, avec interdiction de communiquer entre nous. Cette hutte, c'est tout ce que je déteste. Un vieux hamac qui sent le vomi, des insectes et des serpents partout, pas d'électricité, pas d'eau, rien à manger. J'ai l'impression que je vais tomber malade. J'ai de la fièvre, on dirait. Après tout, c'est peut-être ça mon destin. Crever dans un hamac au fin fond de l'Amazonie. Je suis glacé. J'arrive pas à dormir. Il y a tout le temps du bruit ici. Même la nuit. Je sais pas si c'est des insectes ou des oiseaux. En tout cas, c'est pire que le chien de Victor. novembre. La cérémonie aura lieu la troisième nuit. C'est ce que m'a dit Amaru ce matin. Je sais pas si je vais tenir. Il m'a donné des plantes purgatives. J'ai passé l'après-midi à me vider. L'isolement est difficile. Je me sens faible et sale. Mes pensées sont tellement présentes qu'elles deviennent des choses qui me harcèlent. Elles me hantent, m'hypnotisent. Elles me réveillent en sursaut. J'ai faim. Chaque jour, on n'a qu'un bol de riz, vers 17h. Je me souviens du cuichactao qu'on a mangé à Pissac avec Gabriella. Le cuichactao, c'est délicieux. C'est un cochon d'Inde frit avec des épices, des patates et du maïs. ne suis plus obsédé par Sylvie. Ce qui m'obsède, c'est manger. Un bœuf bourguignon, du foie gras, même un bol de riz. Sylvie en revient à sa dimension réelle. Ses insultes s'éloignent. Son corps devient vague. J'oublie même la jouissance obscure qu'elle m'a fait connaître. D'ailleurs, depuis que je suis arrivé, je ne bande plus. Rien. Ça fait un drôle d'effet. J'ai peur que ça ne revienne jamais. Le jour arrive. D'abord, on ne le voit pas, on l'entend. Ensuite, le jour finit par descendre dans la vallée, à travers les arbres. Les oiseaux sont bruyants aujourd'hui. Ça doit être les grenouilles aussi, celles du marécage. Amaru a peut-être fini de préparer l'ayahuasca. Il m'avait dit dans la pirogue, quand on approchait de Pilpintu, qu'il fallait cuire le mélange deux fois, pendant des heures. J'ai 42 ans. C'est l'âge qu'avait mon père l'année de son suicide. Je ne comprends toujours pas pourquoi il s'est tué. Et pourtant, j'ai l'impression de lui ressembler. Je pense à lui, sans vraiment le connaître. Je tente de découvrir en moi ce que j'ignore de lui. Le 17 novembre. Ou le 18, peut-être. Je n'ai plus de batterie sur mon portable. Je ne peux même pas vérifier quel jour on est. Je ne sais pas si la cérémonie aura lieu ce soir ou demain. Je suis là pour me sortir d'une impasse. Mais pour l'instant, cette expérience à Pilpintu, c'est pire qu'avant. En plus, Victor m'a appris qu'ayahuasca, ça veut dire la liane des morts. Je ne pense à rien, mais je ressens des émotions, sans contenu. Je sens de la haine, sans savoir pourquoi, pour qui. Mais c'est là.
Guillaume. Hé, Guillaume, c'est moi, t'es là ?
Gabriella, ça va ?
Ça va. J'avais juste envie de te parler un peu.
Ça fait plaisir de te voir. Dis-moi, la cérémonie, c'est ce soir ou demain ?
C'est demain.
Il y a quelque chose qui va pas ?
Non, ça va, ça va, ça va. T'inquiète pas.
Oh, moi, ça me rend fou de rester comme ça, sans bouger ni manger.
T'as eu ton bol de riz, toi, aujourd'hui ?
Non, pas encore.
Putain, moi non plus.
T'inquiète pas, on y est presque.
Bon ben, bonne chance pour demain.
Ouais, bonne chance à toi. Pour l'ayahuasca, il faut être prêt. Je ne suis pas prêt. Mais maintenant, c'est ça ou rien. Alors tant pis, je fais comme j'ai toujours fait. Je prends le risque. Je vis les choses. Surtout si elles ont l'air obscures. 18 novembre. En fin de journée, mes acouphènes ont recommencé. Vers 22h, nous nous sommes réunis dans une hutte au centre du village. Nous étions 7, assis en cercle. Amaru, Gabriella et 4 inconnus, des gens des environs, inquiets. Amaru soufflait du tabac pour chasser les mauvais esprits. À chacun, il a tendu une tasse en bois, dans laquelle était l'ayahuasca. J'ai bu jusqu'à la dernière goutte. L'ayahuasca est un liquide épais et marron. Son goût est infect. Chantait des Icaros. On entendait dehors la forêt. Je me disais, il ne se passe rien, il ne va rien se passer. Mon corps s'est habitué à la kétamine et à la mescaline. J'ai pris trop de drogue pour que des lianes puissent me faire de l'effet. On nous fait croire à des cérémonies de purification, à des rites ancestraux, et je perds mon temps. Amaru est un escroc, et je suis sûr que Victor profite de mon absence pour louer ma maison à Pissac. J'avais froid. Les purges et le jeûne m'avaient épuisé. J'avais du mal à bouger mes mains. Je pensais, c'est absurde. En plus, j'ai encore ce goût immonde dans la bouche. Je suis épuisé. Je vais au moins essayer de dormir un peu. Je m'étais allongé sur le sol de la hutte. Alors, les acouphènes s'étaient transformés. Ils devenaient même visibles, des lumières en périphérie. Je les suivais des yeux. C'était beau. Ça ressemblait aux effets du LSD. Mes yeux laissaient des traces dans l'air. Des kaléidoscopes colorés, des cercles, des vitraux qui tournaient. Plus vifs encore si je fermais les yeux. Ça se mêlait au chant d'Amaru. Les images et les sons étaient des sortes d'équivalents.
Bon, le monde est prêt.
Il réveillait en moi des ondes
endormies. Tu mets ton manteau. Fais tes lacets, s'il te plaît. Je n'ai rien obligé de faire comme... J'ai 72, va se blesser. J'ai
72 ans.
Je peux 60. Ça fait quoi ça? Regarde, non, sois pas ton vieux père. C'est quel âge? Je suis né en 31.
À peu près 40 ans. Oui.
43 ans, non, ça. Alors, 60. Non, qu'est-ce que j'ai dit? 72. Non, mais. Bon, on me casse les mains.
Oui, oui,
oui.
C'est
prêt. Allez,
je vais pas.
Amaru m'avait dit, redresse-toi. Je n'avais pas compris. De toute façon, je ne pouvais plus bouger. Il m'avait aidé à m'asseoir contre la cloison de la hutte. Ensuite, avec une palme, il avait frappé un rythme sur ma tête, en chantant, pour que l'ayahuasca m'envahisse totalement.
Tu vas prendre ça? Tu me...
Pour les crocodiles.
Pour essayer, pour les dégâts.
Pour la crocodile.
Pour la ticlasse.
Et les jaguars.
Hand foot. Pour les divadors. Trou. Qui n'a pas la bidette?
Mettez dans votre vie de la vache, de la volonté, de la chenelle.
J'étais soudain débordé par des pulsions érotiques extrêmes. J'étais débordé, ou plutôt agressé par ces pulsions, qui se retournaient contre moi. Nous naissons d'un coït, et nous vivons pour coïter. Tout le reste n'est que littérature. À ce moment-là, il me restait peu de lucidité. Presque plus rien. Mais je me disais... Ça doit être le pic de l'expérience. Ensuite, ça va redescendre. J'avais très froid. J'étouffais. Ma voix ne me ressemblait plus. Je me disais, tu ne parles pas, mais tu entends ta voix. Tu entends ta voix, mais tu ne la reconnais pas. En réalité, je ne pouvais plus penser. j'étais appuyé contre la paroi de la hutte, paralysé. Je ne voyais plus. Je n'entendais plus. J'étais dans un univers sans limite ni loi. Un univers où tout existait trop, trop vite. Un monde inhumain où j'étais de trop.
Regarde, tu te demandes, ils sont sautés. Regarde-toi, sans ça tu débouches dans ton winner.
Keep out.
Ya está, ya, ya llegó ya mi amigo del alma.
Hector Sherek, Itawan Somrek. Putain,
en route d'arracher le corps.
Sur le dos, jambes ouvertes.
Il y avait partout des corps qui avaient l'air de cadavres. Ils avaient été tués par quelqu'un. J'avançais et j'étais heureux de ne pas voir leur visage. J'étais heureux de l'obscurité. J'avais peur de trop bien les connaître. C'était moi, peut-être. C'était moi qui les avais tués. Non ? Si. C'était moi. Je n'avais pas osé. Mais c'était moi.
Tu n'oses pas ? Fais-le. Guillaume, sois mon fils. Suicide-toi. Guillaume.
Je suis un chien. Un chien qui court. Juste un chien. Alors, tout s'est accéléré. Mon passé a disparu. Le futur et le présent aussi. Quelque chose était en train de tout annuler. Ne résistez surtout pas à l'ayahuasca. C'est ce qu'avait dit Amaru. Si ça devient trop intense, abandonnez-vous. Alors, je m'étais abandonné. J'étais prêt à tout abandonner pour que ça s'arrête. Mes croyances, mes plaisirs, mes espoirs, mes peurs, mes haines. J'avais même accepté de m'abandonner moi-même. Alors s'est ouverte la porte de l'ayahuasca. Tout était lumineux.
Mais
Mercredi 19. Retour à Pissac par la route interocéanique à travers la forêt. Nous quittons la province de Tambopata. J'ai vécu l'ayahuasca. J'y ai survécu. Maintenant, j'ai une grande clarté d'esprit, comme avec le cat. Mais ça dépasse l'esprit. Je tenais le front de Gabriella. Je l'aidais à vomir. Je me sentais proche d'elle. Réellement. Je n'avais jamais senti ça. Cette réelle intimité avec quelqu'un. J'avais traversé la nuit la plus extrême de ma vie. Et pourtant, j'avais les mêmes acouphènes qu'avant la cérémonie. Gabriella m'a dit, c'est l'ironie de la vie. Et 21 novembre, retour à Pissac. Dans la maison, il n'y a plus d'eau courante. Victor est incapable de nous donner une explication. C'est peut-être le robinet, nous a-t-il dit. Avec Gabriella, nous ne faisons rien. Nous sommes dans le jardin. Nous admirons en silence la montagne sacrée. Avant, j'étais envahi par la voix des autres. Je ne vivais pas. J'obéissais. Avec l'ayahuasca, j'ai eu accès au silence. À partir duquel je peux écrire. Ou cesser d'écrire. 21h. Nous, les vivants, nous ignorons presque tout de la vie. Mais c'est peut-être notre seul moyen de vivre. 23h. Je bande de nouveau. Soulagement. Et inquiétude. Encore affronter le désir. Samedi 22. L'eau est revenue. Je me suis lavé. J'ai longuement nettoyé mes vêtements dans un seau, près du rio Urubamba. Jamais plus je ne prendrai d'ayahuasca.
Bah, c'est difficile d'en parler, hein. Je suis encore dedans. Mais en fait, j'ai pas vu ma mère pendant l'ayahuasca, ni ma sœur. Moi, je voulais savoir où elles étaient, tu comprends. C'est ce que j'espère en venant ici. En osant vivre ça, mais non, je les ai pas vus, je sais pas pourquoi.
Ouais, moi c'est pareil. Je pensais que je voyais une ex. Et c'est quelqu'un d'autre qui était là.
Ton père, non?
Ouais, mon père un peu, ouais. Mais surtout un homme plus jeune que moi, que j'ai rencontré il y a 4-5 ans.
Et t'as eu une relation avec lui?
Non. Enfin, si, mais pas physiquement.
Mais tu l'aimais, non?
Je sais pas. Et toi, qu'est-ce que t'as vu alors?
Bah, disons qu'à un moment, l'ayahuasca, c'était tellement intense que je savais même plus si ma mère était vivante, si elle était à Buenos Aires, si elle avait disparu depuis plus de 30 ans. Puis alors, juste après, j'avais même oublié que j'avais une mère. Même le mot « maman », je ne le retrouvais plus, tu vois. Je savais plus qui j'étais, j'avais vraiment tout oublié.
Ah ouais. Moi aussi, j'ai traversé une sorte de trou noir. En fait, avec Samir, j'ai vécu plusieurs fois des kéols, tu vois, sous kétamine.
C'est quoi les kéols?
Des trous noirs, justement.
Oui.
Mais là, avec l'ayahuasca, c'était complètement extrême. C'est une sorte de mort imminente. J'avais jamais vécu ça. En fait, tu sais, je crois que t'avais raison, y a qu'un mot pour dire ça, hein, c'est le sacré. Mais je crois que je voudrais jamais revivre ça.
Ici au Pérou, il y a un dicton qui dit « El terror de la ayahuasca es el principio de la sabiduría ». Ça veut dire « La terreur de l'ayahuasca, c'est le début de la sagesse ».
La terreur, exactement. Le pire des cauchemars. C'était tellement atroce que je voulais me frapper la tête par terre. Mais je pouvais pas, mon corps était totalement paralysé.
Mais moi, je crois qu'il y a un moment très fort, vers la fin, c'est ce retour à la réalité, tu vois. Tu vois, quand les hallucinations diminuent et qu'il y a en face de moi la porte de la hutte, et quand j'ai été capable de voir cette porte comme une réalité, tu vois, qui n'allait plus se métamorphoser en jaguar ou en monstre, alors là, je me suis senti, mais... sauvée. Je me suis senti un amour fou pour la vie. Cette porte était une porte, je pouvais la voir, la toucher. C'était une porte qui était une porte et qui restait une porte. Elle était identique à elle-même. Et pour moi, vivre, c'est ça. J'ai besoin de cette réalité, d'une réalité simple, concrète.
Ah merde, il va pas recommencer.
Victor, baja la musica.
Pero la concha de la lora.
Baja la musica, Victor. Baja.
Il fait chier avec sa musique, lui.
Il le fait exprès.
Bah oui, il le fait exprès. C'est...
Il est un peu jaloux, ce type, non?
Ouais, sûrement. Ouais,
quand il me fait chier, quand même.
Non, mais depuis que t'es là, c'est incroyable.
Incroyable. Los Amantes.
Los Amantes.
Ouais, non, il y a de la frustration. Non.
1h30. Je ne dors pas. L'ayahuasca est en moi. Mais ses effets directs s'éloignent peu à peu. Les petites contrariétés reviennent déjà. Le chien de Victor, par exemple. 2 heures. Je pense à mon père. Ce père que j'ai à peine connu. Ce père qui s'est suicidé. J'ai toujours cru que j'étais en colère contre lui. Et contre moi. Je m'accusais de son suicide. Comme si un garçon de 7 ans pouvait être coupable du suicide de son père. Mais maintenant j'ai compris. Ce qui dominait, c'est la peur. La peur de lui ressembler. La peur de désirer mourir comme lui. Maintenant, je m'autorise à vivre. Je vais arrêter d'écrire, rentrer en France et revoir Samir. Adieu, le Pérou. Adieu, Guyota.
Adios, querido.
Au revoir.
C'était très fort de vivre ça avec toi.
Merci à toi, Gabriela. Sans toi, j'aurais jamais eu le courage. Merci.
Ciao, hermoso. Cuídate.
Mercredi 26, je suis seul, mais je suis moi-même. C'est peut-être la première fois. « 27 octobre. Ce matin, Victor est passé me voir. La panne d'eau, c'était bien le robinet.
Vous pouvez réécouter, podcaster Ayahuasca par Agathe Simon et Angélique Thibault sur le site internet de France Culture. » Agathe Simon a créé, en hommage à l'auteur Gabriela Conti, l'exposition Antarctica que vous pouvez voir du 10 au 28 février à la mairie du 10e arrondissement de Paris. Demain soir, dans les ateliers de la nuit, Thomas Baumgartner reçoit la pianiste Sophie Agnel qui joue le jeu sans hallucination ni substance de l'improvisation en studio. Il sera bientôt minuit, vous écoutez France Culture, c'est l'heure des nuits.